peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour. Et bon retour dans l'émission.
Merci.
Donc Virginie était déjà venue une première fois nous présenter l'association Typique Atypique,
oui.
Qui donc bon voilà, vous pouvez retrouver l'émission en podcast. Comme on est très bavardes toutes les deux et qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'après on reçoit Mathieu qui va répondre aux questions des ados, il faut absolument qu'on arrive à dire ce qu'on a à dire.
On se dépêche.
Parce que Virginie en fait va se passer courant de ce mois de juin là la première journée.
Nationale de sensibilisation au TDAH.
Exactement. Alors le TDAH, on va redire rapidement, en deux secondes, ce que c'est. Si on a envie d'en savoir plus, on peut écouter l'émission précédente où on en a D'accord. déjà parlé. Donc c'est un trouble.
Alors c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça c'est l'acronyme, hein, TDAH,
ouais.
Qui d'ailleurs me plaît moyennement, mais bon après c'est pas moi qui décide. En fait c'est pas un déficit d'attention, c'est plutôt une attention multifocalisée ou une dysrégulation attentionnelle. Mais wow. on n'est pas en déficit d'attention parce qu'on peut être hyperfocalisé.
Oui, c'est l'exact inverse.
C'est l'exact inverse, ouais. C'est ça, c'est là où le bas blesse justement, hein. C'est un gros problème. Après bon, il y a l'hyperactivité qui peut être motrice ou cognitive, mm-hmm. ou les deux. L'impulsivité, donc le I qui n'apparaît pas du tout dans l'acronyme, donc l'impulsivité qui peut être verbale et physique aussi, hein, ça c'est plus chez les garçons. Et on parle de plus en plus d'un quatrième quand même symptôme qui vraiment commence à ressortir, qui est une dysrégulation émotionnelle. Puisque effectivement on a une grande labilité émotionnelle, ça monte, ça descend, c'est un peu les montagnes russes, c'est très folklorique.
Donc c'est pas de l'hypersensibilité.
Alors il y a aussi une forme d'hypersensibilité, mais là vraiment il y a plein de choses en fait dans le TDAH. Ça regroupe vraiment plein de choses, c'est très vaste, mais c'est vrai que quand on traduit TDAH, voilà, il y a l'attention qui apparaît, l'hyperactivité, il y a pas cette impulsivité qui ressort hein, dans l'acronyme, mais il y a beaucoup d'autres choses.
Et ça manque d'après toi?
Bah moi, je trouve que ça manque parce que le TDAH alors, est considéré, reconnu comme un trouble, un handicap depuis la loi de 2005. Mais ça n'est pas que ça. Ça peut aussi être une force, une richesse.
Mais
il faut
oui,
le transformer.
Positivement. Et c'est positivement. Ça aussi, cette journée de sensibilisation.
Ah, c'est à ça que ça sert.
Pour, ouais.
Et alors, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Mais ce qui, pour moi, je trouve, et puis en discutant avec des professionnels, avec d'autres personnes concernées, entre guillemets, pourrit quand même beaucoup cette particularité, ce trouble du neurodéveloppement, c'est l'impulsivité. Parce que l'hyperactivité, moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, ça permet de déplacer des montagnes, on fait plein de choses. Alors, ça peut être usant hein, pour les autres, on est d'accord.
J'ai rien dit, moi.
Non, je fais référence, les gens se reconnaîtront peut-être. L'attention comme ça, hein, qui fluctue, enfin, mais ça se travaille. C'est quelque chose vraiment... et c'est pas ce qui est le plus dramatique, je trouve, même si ça peut être vraiment... dans certaines situations problématiques, hein, mais ce qui est quand même très, très, très compliqué, c'est l'impulsivité.
Ah, ça, fait, tu dirais que c'est le plus difficile à faire accepter, accepter soi en tant que...
Alors, pas forcément accepter parce qu'on s'en rend justement pas forcément compte, mais c'est pour les autres hein, que c'est difficile. Et on donne toujours une image du TDAH, par contre, que j'aime beaucoup et qui représente vraiment bien la chose, c'est on agit avant de réfléchir. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le truc monte et ça sort. Parce qu'on est incapable de, comme une autre personne, de se dire « Bon, alors attends, là, je vais d'abord réfléchir. » Est-ce que... Non, pas du tout. Donc, ça monte, ça sort. Des fois, ça explose. Et le truc redescend. Mm-hmm. Et puis, tout va bien. Nous, on passe à autre chose. Par contre,
mais la personne peut...
Ah ben, les autres,
oui, bah oui,
ça peut être
difficile, hein.
Beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Et donc, cette impulsivité qui se gère, ça se gère aussi. Ça peut se canaliser. Hein. On peut aussi mettre en place des choses. Mais c'est ce qui est quand même le plus difficile. Et dans tout ce qu'on a comme retour, que ce soit les adultes, les enfants, ben à l'école, c'est quand même l'impulsivité qui pose problème. À l'école, par exemple,
c'est
le gamin qui ne va pas lever le doigt.
Oui.
Qui va répondre,
ouais,
qui ne va pas attendre son tour, qui ne va même pas laisser des fois l'enseignant terminer de poser sa question. C'est souvent difficile et du coup, qui va peut-être répondre à côté. Mais parce que c'est tellement... Moi j'ai toujours dit, avant que j'ai mon diagnostic de TDAH, je traîne quand même des casseroles, hein, Et je suis très nerveuse, très speed, je suis toujours dans l'hyperactivité. Et quand j'étais petite, j'ai toujours dit, c'est comme si à un moment donné, j'ai un courant électrique, une décharge. Et en fait, j'avais trouvé un moyen pour me calmer en cours, parce que je sentais à un moment donné que ça montait, ben, je prenais mes crayons et je les cassais. Et en fait, c'est comme si j'avais débranché la prise. Et ça m'a poursuivi. Enfin,
je pense que ça fait tilt à pas mal de gens, là, ce que tu viens de dire.
Mais en fait, moi, c'était le moyen finalement que j'avais trouvé pour compenser, sans savoir que j'avais donc un TDAH. Et en fait, et puis alors le soir, je me défoulais sur mon piano.
Il en fallait des crayons quand même.
Ah, j'en ai cassé beaucoup.
Ah oui. Et alors, un gros budget crayon.
Un gros budget. Et puis petite, et ça, j'ai des souvenirs vraiment très présents. Il y a quand même eu certaines fois où le soir, pour me calmer, je demandais à ma maman de me mettre une claque. Enfin, je lui disais, il faut me calmer. Ah non, mais j'atomisais mon lit. Enfin, où vraiment, j'étais tellement survoltée. C'était tellement horrible. Enfin,
pour rappel, quand même, parce que les fidèles auditeurs ont écouté Virginie nous parler de son adolescence.
Ah, mais pour le reste, aucun problème.
Mais c'est fou que ça ne te soit pas venu quand on te demande de parler de ton adolescence.
Mais parce que je pense que comme j'ai évolué dans un cadre vraiment bienveillant, enfin avec des parents vraiment extraordinaires, et puis une maman avec une patience illimitée, ça joue. Hein.
Ah oui,
si elle avait été comme moi, peut-être que ça n'aurait pas été pareil. Donc elle a toujours été à l'écoute, elle a toujours accueilli finalement mes émotions. Alors ma maman est très, 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 elle est hyper sensible. Donc de toute façon, elle avait cette finesse peut-être et cette manière d'appréhender les choses, et puis de nous élever hein, avec mon frère. Donc, ce n'est pas quelque chose, finalement, j'ai des souvenirs. Hein, c'est vrai qu'en cours, c'était parfois compliqué, mais ça ne m'a pas non plus pourri ma jeunesse, mon adolescence. Et puis, j'ai compensé de moi-même. J'ai mis en place des choses.
Quand on en parle, j'ai l'impression que c'est quand même une vraie souffrance hein, de se dire de rentrer et dire à sa maman « Est-ce que tu peux mettre une torgnole parce que ça va m'aider à me calmer ?» C'est dur quand même. Quand tu en parles, ça paraît léger. Et drôle,
oui.
Mais c'est pas très drôle.
Bah après, moi, combien de fois j'ai tapé dans les murs, j'ai cassé et je me suis fait mal. Mais ça me poursuit encore aujourd'hui. Ou de temps en temps, quand vraiment.
Cette journée, Virginie.
Alors, cette journée, justement, oui.
Donc, c'est la date.
Alors, samedi 12 juin.
C'est un samedi, c'est pas terrible pour nos auditeurs, mais bon.
Alors, de toute façon, on va être en webinaire, parce qu'avec la situation sanitaire, on n'a pas eu le choix.
D'accord.
Il y aura du replay, puisqu'en fait, cette journée est une journée nationale.
Donc, même si on rate cette journée, on n'a rien raté.
On n'a rien raté.
Pas dans le sens.
Pas de souci.
On s'est compris.
Pas de souci. Ouais. En fait, l'idée, donc, c'est une journée nationale qu'on organise en partenariat, donc Typique Atypique et une association qui est dans le Nord, près de Lille, TDAH.
Donc, on mettra toutes les références sous le podcast, etc.
Et on a 5 autres associations qui nous ont rejoints. Donc, il y aura des événements dans plusieurs villes en France. Donc, de toute façon, l'idée, c'est d'être proposé un replay pour que les gens puissent finalement voir ce qui s'est passé dans les autres villes de France également.
En plus, voilà.
En plus. Et cette journée, elle est vraiment là pour informer sur ce qu'est ce TDAH, pour faire tomber un peu les préjugés, les tabous, les a priori, les fausses idées qu'on a.
Ou les vraies idées.
Donc, informer, communiquer, sensibiliser, vulgariser aussi.
C'est-à-dire que... Tu as des exemples de webinaires ?
Ce qu'on va proposer ?
Oui, par exemple, je ne sais pas, un sujet de conférence ou j'en sais
rien. Alors, à Strasbourg, on en aura 4. Donc, il y aura Mathieu Chevassu qui va faire une conférence sur justement... qui va parler justement de comment finalement diagnostiquer le TDAH, comment faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place,
pratico-pratique.
Etc. Pratico-pratique. Sa collègue Naomi Hamelin, elle, va proposer une conférence sur justement la prise en charge du TDAH à travers les jeux vidéo.
Et on va la recevoir d'ailleurs.
Ah bah fantastique, bah oui. Voilà. Donc elle va intervenir. Et après, on aura un neuropsychologue de Belgique, Sébastien Henrard, qui va proposer une conférence sur hygiène de vie et TDAH, parce qu'on sait que la cause environnementale qui regroupe quand même l'hygiène de vie, alors ça peut être l'alimentation, ça peut être la différence entre vivre en ville, dans un immeuble avec tous les stimuli, ou vivre à la campagne, etc. etc.
Ouais, bien sûr.
On sait aussi qu'il y a un facteur génétique, qu'il y a aussi des choses qui interviennent quand l'enfant est in utero, ça peut être est-ce que la maman a fumé, est-ce qu'il y a eu des problèmes, on s'ajoute tout ça, la cigarette, l'alcool, on sait aujourd'hui, on sait aussi que la prématurité.
Les mamans qui n'ont rien fait de mal, elles ne vont pas commencer à se poser des questions.
Non, non, elles ne vont pas. Il y a un facteur génétique, tout simplement.
D'accord.
Il y a aussi la prématurité. Aujourd'hui, il y a des recherches, notamment aux hôpitaux universitaires, il y a de la recherche qui est faite sur justement la prématurité qui pourrait intervenir.
Ça va être abordé.
Donc ça va être abordé. Et on a Sébastien Weibel, le psychiatre spécialisé dans le TDAH de l'adulte aux hôpitaux universitaires, qui lui va intervenir sur le TDAH adulte et donc qui va expliquer un peu toutes les formes en fait de TDAH qu'on peut avoir. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le TDAH, on peut avoir hyperactivité ou pas, mais on peut aussi avoir problème d'attention ou pas. On peut être impulsif ou pas. En fait, toutes les combinaisons sont possibles.
Il faut arrêter avec cet acronyme, alors.
Il faut
changer les choses.
C'est pas moi qui l'ai... En fait,
c'est quoi ? C'est le DSM ou c'est quoi ?
Alors oui. Alors d'abord, il vient des États-Unis. Mmh, voilà. C'est pas tout à fait la traduction exacte. Mmh. Et puis, donc, on a fait un peu, je pense, à notre sauce. Mais en tout cas, moi, j'en parle souvent avec le docteur Sébastien Weibel. Et je dis, ça va pas du tout. Il faut le changer, cet acronyme. Mais bon, après,
déjà
notre
ça,
petit
parce que quand
niveau,
on parle des idées reçues, des choses comme ça,
on est d'accord.
Déjà, l'acronyme, il nous dit
on
pas
est d'accord.
La vérité.
C'est le plus gros problème qu'on a. Donc, cette journée, elle est vraiment là.
Quand on parle, on sent que tu vibres pour ta journée là.
Génial. Moi, je trouve que il faut vraiment. On a un gros problème en France, c'est qu'on communique pas assez ou mal, et que on a un. Alors, je le dis pas méchamment, mais je pense vraiment qu'on a un problème de mentalité et de culture, qu'on n'est pas assez ouvert à la neurodiversité en général, qu'on est trop enfermé, dans des cases. L'enfant précoce, c'est le petit génie. L'enfant TDAH, c'est le sale gosse. L'enfant autiste, c'est parce que la mère a pas coupé le cordon. Enfin, il faut sortir de tout ça aujourd'hui. On est en retard en France.
Ouais. Parce qu'avec la culpabilité que tout le monde porte aussi, on ne fait pas avancer les choses.
Alors, les familles sont culpabilisées, les gamins sont stigmatisés. Enfin, c'est juste horrible. Nous, on a des familles qui sont dans des situations... moi, ça me fend le cœur parce que...
Donc, il y a aussi des groupes de parole, d'ailleurs, dans ton association.
Nous, on propose...
Est-ce qu'il y aura ce jour-là des groupes de parole ?
Non, alors pas ce jour-là, parce que ça va être vraiment trop compliqué. D'accord. Alors, il y aura le chat dans les webinaires.
On pourra quand même intervenir, poser des
questions.
Les gens
pourront intervenir et poser des questions. Et puis après, de toute façon, les gens savent qu'ils peuvent revenir vers nous, ils peuvent nous contacter par mail, par Messenger, Instagram, LinkedIn. Enfin, on est à peu près partout. Et l'idée, c'est vraiment pour nous de répondre au maximum aux gens et vraiment de les informer et puis aussi de soutenir les familles, de créer du lien avec les groupes de parole et de leur apporter cette petite bulle d'oxygène et pour que ces familles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas isolées, qu'il y en a d'autres. Et ça, c'est juste ce dont les gens ont besoin.
C'est l'essentiel, parce que oui, on se sent souvent un peu démunis.
Seuls, isolés.
On a des questions à poser à Mathieu qu'on va voir aussi un peu ça.
Parfait.
Voilà, on va le recevoir tout de suite.
Super.
Merci Virginie.
Merci.
Alors donc on reçoit Mathieu Chevassu qui est neuropsy, spécialisé donc dans les troubles dont on avait parlé lors de la première émission. Mais aujourd'hui, comme Mathieu ne l'ignore pas, on consacre cette émission au TDAH ou pas. Voilà, j'ai choisi de dire H ou pas. C'est bien sa classe. Et du coup, Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. C'est chouette de se retrouver et que tu aies accepté de répondre à nos questions d'ado. Donc elles sont, tu verras, elles sont assez touchantes. Donc je lis la première question. Donc on laisse l'anonymat dans l'émission, comme ça les ados se sentent libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Alors comment se faire accepter avec un TDA ? Les profs me trouvent toujours trop, soit trop agité, soit trop vif, soit trop présent. Je passe ma journée à me contenir pour un résultat quand même pas cool. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, ça c'est la première question.
Ok, donc là, la question alors du coup est plutôt orientée sur tout ce qui est l'agitation, l'hyperactivité et la difficulté finalement de le regard de l'autre finalement par rapport à...
Ouais, c'est ça, quelqu'un qu'on trouve toujours trop, comment est-ce qu'il peut arriver finalement à être quand même épanoui ? Parce que ça le problème, j'ai l'impression qu'à force de se contenir comme ça, on se retrouve avec des ados qui sont pas eux-mêmes, voilà, parce qu'ils peuvent pas l'être, on les laisse pas l'être.
Oui, c'est ça. Oui, justement, en général, c'est souvent ça, ce côté impulsivité, c'est souvent le fait, de se retenir. Alors, l'hyperactivité peut exister sous différentes formes, comme ça a pu être décrit par de l'agitation motrice. Il peut y avoir aussi tout ce qui est, de la dérégulation des émotions, le fait d'avoir des accès de colère, des accès d'émotions, des larmes qui viennent facilement, etc. Donc c'est vrai que le vécu social de cette agitation peut être assez compliqué. L'idée c'est finalement d'être de s'entourer de personnes qui sont assez bienveillantes et compréhensives par rapport à ces choses-là. L'idée c'est que finalement le TDAH, l'hyperactivité, l'impulsivité, ça fait partie de notre fonctionnement. Hein. C'est pas des choses qui On peut travailler dessus à travers différentes choses, des choses pour lesquelles on a de l'intérêt. Donc ça peut être de la méditation, de la sophrologie, des suivis psychologiques, etc. Mais l'idée aussi, c'est qu'au quotidien, il puisse y avoir un entourage sécurisant où on peut communiquer tout ça et où finalement les relations puissent être assez décomplexées.
Ouais, mais ça, c'est dans le monde des bisounours, en fait. Dans la vraie vie, malheureusement, à l'école, les gamins sont super durs entre eux. Un enfant qui est impulsif, ça va être un enfant qu'on va considérer comme méchant ou comme, je sais pas, même harceleur, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et puis, moi, pour travailler dans un lycée qui est spécialisé là-dedans, je vois des enfants qui ont souffert depuis l'école primaire de brimades, de remarques et de remarques aussi de la part des profs très souvent, et c'est les profs qui ouvrent un peu la porte finalement aux élèves de pouvoir dire, tiens, si le prof il lui a dit qu'il arriverait jamais à rien, moi aussi je peux lui dire, en gros hein. Donc un ado comme ça là, qui nous écrit, ça, c'est un ado qui est en danger en fait. Donc est-ce que tu lui conseillerais d'essayer peut-être d'avoir un suivi psy un peu plus profond, de voir comment ça peut se gérer pour lui?
Après, ça c'est très important de le dire aussi. Hein, finalement, dans ces idées-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand effectivement les difficultés ressenties, quand ça commence aussi à toucher la sphère émotionnelle, hein, quand on commence à se sentir déprimé, anxieux, c'est effectivement des signes d'alerte où il faut effectivement commencer à aussi chercher de l'aide au niveau de différents acteurs, que ce soit les psychiatres, que ce soit les psychologues, pour pouvoir justement travailler sur ces notions-là. Et donc justement, l'idée de mettre en place ce type de suivi ou de prise en charge, c'est justement d'essayer alors à la fois de travailler sur... C'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure, hein, mais c'est d'essayer d'être sur la prise de recul, d'essayer de mieux comprendre son fonctionnement et effectivement d'essayer aussi de repérer les situations où finalement le fonctionnement impulsif va venir interférer de façon assez significative avec les relations ou avec les activités. Et donc le but après, c'est à travers de la remédiation cognitive, mais aussi des suivis. Quand on fait de la remédiation cognitive, on n'est pas que sur la gestion de symptômes, inattention, hyperactivité.
Ah oui, d'accord, c'est bien de le préciser.
Toutes les émotions qu'il y a autour.
Okay.
C'est sur quoi travaille aussi beaucoup ma collègue, hein, Naomi Hamelin.
Qu'on va recevoir aussi. D'ailleurs.
Oui. Et du coup, justement, elle fait des choses super intéressantes par rapport à ça, que ce soit que les enfants utilisent les jeux vidéo. Elle essaye vraiment de travailler sur cet aspect motivationnel, parce que c'est souvent pas motivant de travailler sur ces difficultés, ce qui est tout à fait normal. Et donc, du coup, il faut essayer de trouver... En fait, de toute façon, le maître mot dans le TDAH, c'est trouver du plaisir. C'est vraiment... dans le TDAH, le défaut central qu'il va y avoir, c'est la motivation, la régulation des émotions. C'est des choses qui se passent au niveau cérébral et qui font que, justement, il faut trouver ce plaisir et cette motivation pour pouvoir gérer au mieux ce mode de fonctionnement-là.
Le goût de l'effort...
Ouais, c'est ça.
Qui fait souvent défaut, ça va avec la motivation. Enfin,
oui, mais parce que quand on se contraint et qu'on fait des efforts toute la journée, c'est difficile après de trouver la motivation pour travailler sur...
Pour en venir à la question, c'est surtout ça, là où le bas blesse avec les enseignants, en fait, hein, qui ont du mal à comprendre ça.
Et on n'est pas là pour stigmatiser les enseignants, mais quand même, on sait que vous n'avez pas forcément, chers enseignants, les outils, les structures, les ressources, etc. Mais enfin, en même temps, j'ai envie de dire, il y a Internet, il y a plein de choses maintenant, quand même. Et il y a l'association aussi de Virginie, parce que je pense que si des enseignants se tournent vers toi, ont envie d'avoir des infos, tu les vas les recevoir les bras ouverts.
On a des enseignants.
Et pas avec un bazooka.
Ah non, pas du tout. On a des adhérents qui sont enseignants et on a des enseignants extraordinaires qui ont envie de faire bouger les choses. Alors, c'est compliqué parce que l'institution en éducation nationale, on connaît tous
le
ça,
mammouth.
C'est lourd, c'est le mammouth. mais non, il y a des enseignants extraordinaires qui vraiment essayent plein de choses, qui essayent de mettre en place des choses. Enfin, c'est pas toujours évident. C'est vrai, quand on a des enfants TDAH, il faut le reconnaître, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je rebondis
entre deux moments, on a envie de les coller contre le mur.
C'est ça, de les atomiser, hein, comme on dit.
Entre deux moments, on est bienveillant.
Mais sinon, il y a effectivement aujourd'hui, alors il y a de la lecture, il y a quand même Internet, c'est génial. On tape TDAH, il y a déjà plein de choses.
Non, parce que
il y a quand même de quoi faire, et ça il faut quand même le dire, et j'en profite, je rebondis juste là-dessus. Il y a le site de l'ASH 67
Donc, c'est le site de l'inspection académique.
Oui, il est super bien fait.
Alors, il y a l'ASH 67, dont la référente, donc Joëlle René, la référente de ces fameux élèves dits à besoins éducatifs particuliers. Et alors, il y a pléthore d'informations.
Il y a beaucoup de ressources.
Il y a plein de ressources. Et puis, il y a des formations. Alors, c'est compliqué, c'est des, par petits groupes, il faut arriver à s'inscrire. Mais il y a quand même des choses.
Il y a des choses.
Il n'y a pas rien, quoi.
Non, il n'y a pas rien.
On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Voilà. C'était ma petite.
Alors Mathieu, en fait, sans le savoir, tu as déjà répondu à deux autres questions d'ados. Donc les ados là, qui écoutaient, vous avez eu vos réponses alors que je n'ai pas cité votre question parce que voilà, c'est très talentueux Mathieu.
J'ai par contre...
Mais pas du... pas du tout. Par rapport à Virginie, pas du tout. Oh ça va.
Je me contiens en fait pour ça.
C'est vrai. On se contient tous. Alors j'avais une personne adulte qui m'avait envoyé cette question. Mon psy me conseille de faire des activités de type sophrologie, méditation, yoga, mais rester statique me rend dingue. Quand mon hyperactivité est si présente, je ne sais pas comment faire pour faire redescendre la pression. Quels sont les conseils ? Effectivement, c'est très intéressant comme question parce que à chaque fois qu'on dit qu'on est agité, on nous dit de nous calmer. Donc ok, calmez-vous, respirez, faites de la sophro, de la méditation. Mais je crois que certains adultes, certains ados n'y parviennent pas. Peut-être y parviendront-ils un jour. Il y en a, c'est la rando qui va les apaiser. Donc, ils sont quand même en mouvement, mais c'est une forme de méditation. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cet adulte qui se pose la question ?
Justement, de toute façon, l'idée par rapport à toutes ces choses-là, donc en fait, c'est que par rapport aux différentes prises en charge qui peuvent être proposées dans le TDAH, finalement, l'idée, à nouveau, et c'est toujours ça, hein. Vous le retrouverez chez plein d'auteurs ou de professionnels qui en parlent, hein, notamment du coup sur la chaîne des Foot Normandie, il y a M. Sébastien Rard qui est neuropsychologue belge qui fait souvent des interventions sur ce type-là. Mmh. Et on est tous d'accord sur l'idée de dire que dans le TDAH, quelles que soient les choses qu'on a à faire, que ce soit dans la remédiation, que ce soit dans le quotidien, il faut essayer de trouver toujours ce plaisir. Qu'en fait, il faut vraiment voir le TDAH comme un déficit en fait de neurotransmetteurs, donc c'est des petits messagers chimiques au niveau cérébral qui sont dérégulés. Donc en fait c'est la dopamine, hein, c'est une hormone, l'hormone du plaisir en fait, qui ne va pas être assez libérée au niveau du cerveau quand on réalise des activités ennuyeuses, etc. Donc ça entraîne des difficultés de concentration, de l'agitation, de l'hyperactivité. Mm-hmm. Mais par contre, il y a aussi un effet contraire qui est dans les moments où on est à fond, et ben là il y en a trop. Ça fait des phénomènes d'hyperfocalisation. On n'arrive pas à se détacher de l'activité. On est dans des formes de persévération comme ça. Et ça, c'est un peu le tableau ambivalent. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de trouver les activités qui permettent de libérer cette dopamine-là. Alors, il y a des personnes qui vont trouver du plaisir tout à fait à faire de la méditation parce qu'il y a ce côté calme, serein qui va leur faire du bien. Et en là, ça n'a pas marché du tout. Et alors, dans ce cas-là...
Et c'est pas grave.
Bah finalement, voilà, c'est pas grave.
Mmh. Non, parce
de toute façon, l'idée de.
On peut se calmer en étant actif. On n'est pas obligé d'être posé. C'est ça qu'il faut,
non,
qu'il
ça.
Faut
en
dire.
Non, l'idée, c'est vraiment de trouver. En fait, il y a plein d'études qui ont pu montrer que finalement, il n'y a pas un sport, il n'y a pas une activité qui va
marche
être plus
pour tout
destinée au TDAH. C'est en fait, c'est l'activité qui va faire le plus plaisir. Et c'est dans celle-là qu'il faut essayer voilà, de rechercher les choses. Et essayer de travailler aussi sur la symptomatologie. Et c'est en ça que, par exemple, justement, certains psychologues, donc par exemple ma collègue Naomi Hamelin qui travaille sur le jeu vidéo, bah, du coup, justement, elle va utiliser ce matériel qui fait très plaisir aux enfants et travailler sur ça, sur des mécanismes de on s'inhibe, on se retient de faire certaines choses. Mais on est sur un matériel ludique qui fait qu'il y a une plus grande adhérence c'est dans super. Le cadre des enfants. Mmh. Après, chez les adultes, c'est pareil. Hein. Par exemple, il y a des sportifs de haut niveau qui ont un TDAH et qui en fait vont pratiquer beaucoup de vélo. En fait, pendant ce vélo, ils vont pas du tout avoir d'inattention, d'hyperactivité. Mmh. Et en fait, ce vélo va leur libérer cette fameuse dopamine. Et ensuite, à la fin de cette activité de vélo, ça leur a fait tellement de bien, ça leur a libéré tellement de dopamine qu'après, ils peuvent faire des activités qui habituellement sont ennuyeuses et qui leur demandent trop de concentration
c'est
et sur lesquelles ils n'arrivent pas à faire.
Non, parce que j'ai bien compris. Donc en fait, on ne demande pas à un hyperactif de se poser pour pouvoir être mieux posé après. C'est vrai que ça n'a pas forcément de sens en réalité. Finalement, aller un peu si on a besoin d'activité, après on sera peut-être effectivement plus calme et plus apte à faire des choses qui demanderont une concentration. Super logique.
Et
en
là,
fait.
C'est le truc aussi super, super important. Mm-hmm. C'est un message aussi pour les parents qui ont des enfants TDAH, parce que le plus souvent, moi, en consultation, je reçois des parents qui voilà, me disent ah, c'est pas possible, quand il apprend, il doit tout le temps gesticuler partout, il doit marcher, etc.
Ben, c'est normal.
Tant mieux, parce que du coup, s'il arrive à investir les apprentissages en marchant, en faisant une petite activité à côté, dans la mesure où ça n'interfère pas hein, avec la situation d'apprentissage, bah tant mieux. Enfin, pour citer mon exemple personnel, quand du coup à la fac, du coup bon, je suis aussi un TDAH du coup, mais du coup
à la fac, bah, du coup
pour apprendre tout ça, et ben du coup j'avais aussi ce besoin de me déplacer en fait continuellement dans mon appartement, dans mon
studio.
Moi
aussi, alors que je n'ai pas de TDAH, a priori. Enfin, je ne sais pas, vous mettez dans le doute maintenant.
Non, mais on sait quand même aujourd'hui, avec toute la recherche, la science, enfin, tout ce qu'on... Les neurosciences, on sait quand même que le cerveau fonctionne mieux quand il est en mouvement. Enfin, quand on est en mouvement.
Oui.
Donc rester assis... l'homme n'est pas fait, à la base, pour rester assis sur une chaise pendant 8 heures.
Non, mais c'est vrai que du
coup,
les déambulations comme ça, c'est hyper constructif.
Ah, c'est
et du coup, toi, Mathieu, c'est ce que tu faisais pour apprendre tes cours, pour retenir des choses, etc.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est que quand j'étais assis, je ne pouvais pas apprendre mes cours parce que je bougeais, je gesticulais sur ma chaise. Et par contre, en fait, quand je me baladais dans mon studio avec ma tablette sous les bras, bah, je récitais par cœur mes cours en déambulant. Et puis du coup, voilà, ça me permettait de canaliser en fait ce surplus. Alors que quand j'étais à la bibliothèque, où fallait pas parler, où fallait être
ça convient pas à tout le monde assis, en fait.
Et ben, je bavardais avec les gens à côté.
Ouais, t'avais besoin que ça bouge d'une certaine façon.
T'as vu comment il est vraiment ça.
En apprenant, il fait de la trottinette pour apprendre.
Lui, il fait de la trottinette et il récite et puis il regarde ou alors il est complètement à l'envers sur le canapé. Enfin c'est jamais statique quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est jamais assis normalement entre guillemets. Alors j'aime pas ce terme là. Normalement, la normalité c'est quoi? Mais il est jamais assis comme un gamin lambda. Avec
non, mais il y a des écoles où il y a même des pédaliers, je crois, sous les tables.
Oui,
il
y en a pas beaucoup, mais ça commence.
Ça existe. Ça commence. Et t'as vu comment Mathieu nous a placé qu'il était jeune en nous expliquant que quand il a fait ses études, il avait déjà une tablette.
C'est ça.
Non, mais c'était subtil, mais je l'ai reçu. J'ai reçu l'info. Voilà.
Ah oui, on n'avait même pas de portable quand on a fait...
Ben non. Voilà.
On n'est pas de la même génération.
On allait lire l'encyclopédie.
C'était
à la fac, oui. Bon, allez. En fait, on a une dernière question, si tu veux bien, Mathieu, puis après, on va te laisser filer parce que je sais que tu as un rendez-vous. C'est des parents qui nous disent, voilà, nos amis nous rejettent un peu du fait de nos deux enfants hyperactifs. Alors, je ne sais pas l'âge des enfants... mais est-ce qu'on peut dire quelque chose à part faire le ménage
dans ses amis.
Dans ses amis.
Parce que certains font. Hein.
Ça fait assez naturellement les choses, hein, de toute façon, d'avoir des enfants hyperactifs. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient dire à leurs amis pour que ça se passe un peu mieux, un peu plus sereinement?
Déjà, ce qui est important dans le cadre du TDAH, c'est qu'en fait, les enfants, de par leur hyperactivité, en général, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité qui vont souvent être un frein dans les relations parce que l'enfant va être brusque, il va sous l'excitation se montrer très désinhibé, va être un peu une tornade. Hein. Donc c'est ça qui va pouvoir souvent rebuter. Mais du coup, l'enfant souffre aussi de cette hyperactivité, de cette impulsivité. Et en général, ce retrait social qui va être fait pèse aussi sur l'enfant.
Bien
et ça va aussi du coup favoriser ce qui est anxiété. Et finalement, l'enfant va aussi avoir du coup des difficultés après, plus tard, au niveau des relations, des choses comme ça. Donc finalement, l'idée, c'est d'éviter au plus possible quand même d'isoler socialement l'enfant, puisque un enfant TDAH, ça reste quand même un enfant qui est un enfant comme les autres, qui a simplement des particularités d'hyperactivité, d'impulsivité, parfois des troubles de l'opposition associés. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est quand même un enfant, il a aussi besoin d'amour, de développement, de lien avec des pairs. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau... au niveau des relations avec les autres, c'est très fréquent que les parents disent que c'est plus possible pour eux de sortir, que ce soit au restaurant, que ce soit
chez des amis. Un enfant au restaurant
Moi.
Ah non, mais moi jamais. Hein. Ah non, mais moi je les laisse à la maison. Hein.
Mais moi je les embarque partout depuis qu'ils sont petits.
Ah.
Enfin, moins depuis qu'on est rentré en France, c'est vrai. C'est pas trop, tout à fait.
Oui, moi aussi, quand je vais à l'étranger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Enfin, c'est pas un jugement. T'emmènes tes enfants au resto si tu veux, mais.
Merci.
Pensez aux autres, merde. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien aussi pour les parents de se faire des choses sans leurs enfants.
Ah,
parce qu'en même
bien
temps,
sûr.
On est en hyper-vigilance tout le temps quand on a nos enfants. J'imagine des enfants avec particularités, peut-être encore plus. Moi, ce que j'avais envie de dire à ces parents, et je ne suis pas neuropsy, mais. Sortez sans vos enfants des fois aussi, je veux dire, il faut qu'ils soient sociabilisés, oui, et si, et ça. Bon, arrête, tu ne veux pas me faire croire que je ne peux pas trouver une babysitter ou quelqu'un qui
peut. Ah, il faut trouver quelqu'un
qui
ait envie de garder des gamins comme ça. Il y a une difficulté à ce niveau-là aussi. Parce que je rebondis,
le
TDAH, aujourd'hui, il est quand même encore vu dans l'inconscient collectif, c'est quand même malheureusement la réalité, le gamin, c'est un sale gosse mal élevé, il est mal poli, les parents sont complètement à côté de la plaque, ils sont laxistes,
c'est bien, parce que je l'ai pensé aussi, donc je te le dis.
Voilà, voilà. Merci. mais la difficulté, elle est là. C'est que, et c'est pour ça que la question, elle est intéressante.
C'est pour ça qu'il faut informer, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, pour pas dire, oh là là, le gosse.
Ah non, mais on est bien d'accord.
Mais par contre, le gosse au restaurant, non.
Mais c'est vrai que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de familles qui font du coup du ménage dans leurs relations amicales. Alors des fois même familiales, hein. Même des fois au sein de la famille.
Ah bah parce que les grands-parents qui s'y connaissent peut-être encore moins, sans vouloir.
Oui, et puis les méthodes éducatives aussi ne sont plus les, forcément les mêmes.
Mais maintenant, vous les laissez tout faire, vous dites jamais non, c'est pour ça. Et gna gna, oui, ça, on l'a tous entendu. Hein.
Et puis la bienveillance, pareil, c'est devenu, c'est conceptuel, hein, parce qu'on n'a pas tous la même définition. Alors on s'imagine que être bienveillant.
C'est tellement aussi que ça devient un peu. Voilà.
Mais du coup, on imagine être bienveillant, c'est la porte ouverte à tout.
Mathieu,
on laisse
il
tout
doit
faire,
filer.
Mais non.
Moi, je surveille l'heure et je vois que Mathieu doit filer. Voilà. Bah, sinon, et il n'ose pas, le pauvre, il n'ose pas nous dire, il faut que j'y aille. Donc, Mathieu.
Pas de soucis.
Ok. Bon, de toute façon, on va te laisser filer et on te remercie infiniment de ton intervention. C'était super chouette. Et bah, voilà. Merci.
Ben voilà, merci Mathieu.
Bah super, en tout cas je vous remercie beaucoup pour l'invitation.
À bientôt Mathieu.
À bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,